Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et oui, bonne journée à tous et bienvenue dans vos animaux. Merci à vous d'écouter Sud Radio. Comment allez-vous ce matin? Moi, je vous propose un programme où on va se faire du bien. Nous parlerons de nos chats avec cette question. Pourquoi faut-il dire merci à nos chats? Et surtout, beaucoup de réponses de la part du docteur Anne-Claire Gagnon, une grande spécialiste des chats, qui nous expliquera en quoi ils sont bons pour nous. Si vous avez un chat, si vous voulez témoigner en quoi vivre avec lui vous fait du bien, vous connaissez par cœur le numéro du standard de Sud Radio, 0826 300 300. On vous attend bien sûr car nous sommes en direct. Côté faune sauvage, on va s'intéresser aux espèces invasives qui menacent la faune française. Qui sont-elles? Comment se sont-elles retrouvées dans nos régions? Faut-il les combattre, les laisser faire? On verra tout cela en compagnie de Pierre Rigaud, notre spécialiste naturaliste. Et puis je vous présenterai un coup de cœur, ça s'appelle Wild, le podcast animalier. C'est né d'une envie de réaliser son rêve. Ambre est journaliste, elle est passionnée par les animaux et elle s'est lancée dans ce défi un peu fou de nous faire voyager dans l'univers des animaux juste par les sons. Vous verrez, c'est absolument génial. Moi, personnellement, j'ai eu un vrai, vrai coup de cœur. Nous sommes en direct sur Sud Radio 0826 300 300. On vous attend au standard de Sud Radio.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Merci d'être toujours fidèle à ce rendez-vous de vos animaux. Dans la première partie de cette émission, nous allons parler des chats, de nos chats, les animaux préférés des Français. Il y en a près de 14 millions dans nos foyers. Et les chats sont vraiment des animaux tout à fait particulier. Le chat ne laisse jamais indifférent. Il a forcément quelque chose de fascinant, parfois d'insaisissable aussi. Son indépendance, sa douceur, sa souplesse, sa tendresse sont autant de bonnes raisons de l'observer, de l'admirer et même de l'envier. Nos chats nous font du bien. Au quotidien, vivre avec un chat change la vie. Alors ce matin, nous allons voir pourquoi nous avons 10 000 bonnes raisons de dire merci à nos chats. Pour nos en parler, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Claire Gagnon. Bonjour Anne-Claire.
Bonjour Natacha.
Anne-Claire, vous êtes vétérinaire, vous êtes une grande spécialiste des chats, une amoureuse des chats. Les chats font partie de votre vie personnelle, professionnelle. Vous ne pouvez même pas imaginer vivre sans un chat. Et vous venez de leur consacrer un nouvel ouvrage dans lequel vous nous expliquez pourquoi les chats sont bons pour notre santé. Ça s'appelle « Les chats ». Comment prennent-ils soin de notre santé? C'est aux éditions Robert Laffont. D'abord, première question, Anne-Claire, sur quoi fondez-vous cette affirmation que les chats sont bons pour notre santé?
Alors, je la fonde à la fois sur les publications scientifiques, parce qu'il y en a de plus en plus. Il y en a qui s'intéressent à la fois aux chiens et aux chats, d'une façon générale, mais il y en a de plus en plus qui maintenant s'intéressent spécifiquement aux chats, avec des moyens d'imagerie médicale sophistiquée. Et donc qui permettent de vérifier que les chats, effectivement, permettent de faire diminuer notre pression artérielle, permettent qu'on soit moins anxieux, qu'on consulte moins le généraliste. Et puis, dans le livre, je m'appuie aussi sur les témoignages des acteurs de la médiation animale, parce qu'en fait, on peut pas tout expliquer avec les publications scientifiques, et il faut aussi juste avoir le recueil d'expériences à la fois des patients, c'est-à-dire, par exemple, des personnes en psychiatrie qui souffrent de troubles mentaux, d'enfants qui sont autistes, de leurs parents, et aussi de ceux qui font de la médiation animale et donc s'accompagnent du chat dans les thérapies pour avoir un panorama le plus général possible de tout ce que les chats peuvent nous apporter. Et puis, j'ai aussi consacré un chapitre entier où je dois dire que moi-même, j'ai découvert des choses. Alors, je pensais quand même avec la...
Ah. Oui, non, mais ça c'est... Pourtant, vous êtes calée.
Oui, mais c'est pour ça... Vous dites toujours, Natacha, je suis spécialiste. Non, avec les chats, on n'est jamais spécialiste de rien. C'est ça, le bonheur des chats aussi. C'est que tous les jours, on apprend quelque chose ou de ces chats, ou des publications. Et donc, dans le chapitre « Les chats médecins malgré eux », j'ai exploré tout le domaine où les chats ont été utilisés comme modèle animal, comme sujet pour mieux connaître notre cerveau à nous. Et je dois dire que moi-même, effectivement, j'ai découvert des choses et je ne pensais pas que les chats avaient tellement contribué à la santé humaine. Et c'est pour ça que ma conclusion, c'est de dire merci les chats, mais alors pour tout, parce que non seulement au quotidien, mais aussi dans les sciences générales, en neuroanatomie, par exemple, le chat, c'est le modèle, l'étalon or des anatomistes, des neurologistes, et voilà.
Anne-Claire, vous vivez avec combien de chats, vous ?
Alors, actuellement, je n'ai plus qu'Angélique à mes côtés, qui va fêter ses 19 ans la semaine prochaine.
Ah oui, quand même.
Oui, quand même. Et qui, pour la première fois, hier, a découvert qu'il y avait une merlette au fond du jardin. J'ai dit 19 ans, pour s'en apercevoir, c'est bien.
Vive le confinement. Vous écrivez dans votre livre que vous ne pouvez pas concevoir une vie sans chats, qu'ils sont votre maison. C'est à ce point prenant, quand on découvre l'univers des chats, ils nous embarquent à jamais.
Oui, sache complètement. Ce que vous citez, c'est le témoignage d'Astrid Guillaume, qui est une amie et qui le dit magnifiquement bien et mieux que moi je n'aurais pu le dire. Mais c'est vrai que, oui, quand on vit avec les chats, on finit par adopter leur philosophie. On n'a pas forcément toute leur sagesse ni toute leur résilience, mais on essaie d'apprendre, oui, tous les jours.
Mmh. Nous avons Yvette qui a souhaité apporter son témoignage au standard de Sud Radio. Bonjour Yvette.
Bonjour Natacha. Bonjour.
Merci Yvette d'être avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Yvette, vous aimez les chats ?
Énormément, oui, c'est vrai, énormément. Oui, j'ai perdu ma Mimi Toutoune, je l'ai perdue en juin d'un typhus. Et après, je me suis dit, beaucoup de chagrin à chaque fois, que, malheureusement. Oui. Et puis après, j'ai dit, bon, j'en prenne un autre. Alors j'ai pris Barnabé. Barnabé, il a que trois pattes. Et il y en a une qui n'est pas finie, donc la quatrième, donc il marche, il est différent, quoi. Et ouais. Au début, quand je l'ai vu, j'ai adopté dans une SPA. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, toi, je t'aime pas. Je suis méchante. Ah, j'ai dit, toi, je t'aime pas. Puis lui, on dirait qu'il m'aimait pas non plus. Et puis, petit à petit, on s'est, si, c'est vrai. Petit à petit, on s'est apprivoisés tous les deux. Bon, il dort pas contre moi. Il dort sur le lit, mais pas contre moi. Il vient pas contre moi comme Mimi Toutoune, elle venait dormir sur ma tête, etc. Lui, non. Mais comme en ce moment hein, on est confiné, ça aide beaucoup parce que comme je vis seule, j'ai fait tous mes commentaires, hein, aussi bien.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous comprend, Yvette ?
Oui, il me regarde, il a grandi ses yeux de se dire oh là, j'ai affaire à quelqu'un qui doit diminuer du cerveau. Faut mieux que je fasse comme si. Alors il me regarde, il fait comme s'il me comprenait, il me suit les yeux. Quand je descends, il descend. Moi, j'ai du mal encore à le mettre. Bon, je le mets des fois dehors, hein, mais il faut bien. Hein. Et j'ai du mal parce que sa patte des fois elle perd l'équilibre, quoi. Alors j'ai un peu peur, mais bon, oui. Il va un peu dehors. Et par contre. Là, même pendant en dehors du confinement, mais à 7h du matin, j'ai 5 chats libres qu'on appelle maintenant, que les gens ont laissés, qui viennent manger à 7h, que de la paille, Isabelle, Mignon, Berzinguet, j'y aurais donné des noms. Et puis le soir à 7h, ils sont là, me regarder, l'air de dire allez, on mange ou quoi. Alors, vraiment, ils m'aident à vivre cette période étrange. Hein.
Ils vous apportent beaucoup de bien-être.
Ah oui, même ceux à qui je donne à manger le matin, là, ils me regardent, ils sont là, ils m'attendent, confinement ou pas, bon, faut qu'on mange, voilà, hein. Et mon Barnabé, lui, il gnoule pas, il est drôle, il fait comme les poules. Alors quand il mange, il fait. Alors, je dis ça se trouve, un jour, il me pondra à neuf, ce chat. Je ris.
Ah, vous nous faites rire, Yvette, vous nous faites rire. Vous faites bien le Barnabé qui fait la poule.
Ouais, mais c'est vrai, mais finalement, ben, je l'aime, quoi, ce chat. Voilà. Finalement, je l'aime.
Et il vous aime aussi, en retour.
Et il vous aime, et puis c'est clair. Puis on a tellement besoin.
Merci beaucoup Yvette pour ce non seulement joli témoignage, mais en plus plein d'humour et plein de bonne humeur ce matin. Ça fait du bien d'entendre ça sur l'antenne de Sud Radio. Merci à vous. On vous embrasse et on vous souhaite bien sûr un excellent week-end. Anne-Claire Gagnon, j'aimerais bien, puisque vous êtes quand même une grande spécialiste des chats, qu'on regarde un petit peu l'histoire de cette vie partagée entre le chat et l'homme. Est-ce que le chat a toujours été un atout pour l'homme, voire même un ange gardien peut-être ?
Je crois que le terme d'ange gardien est bon, oui, effectivement. D'abord, le chat a protégé au moment de l'Égypte, de l'Antiquité, les greniers, donc nos récoltes. Il nous a protégés aussi en s'occupant des rongeurs. Il s'est toujours tenu un peu à distance, c'est quand même toujours un petit peu méfié aussi de ce qu'on pouvait lui faire. Il n'a pas toujours eu tort, ça c'est clair. Et maintenant, finalement, il est presque notre garde rapproché en s'occupant plus de notre mental. Et je crois qu'il a du travail, oui.
J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi les chats nous font du bien. D'abord physiquement, puis après on passera au volet mental, parce que là aussi, ils jouent un rôle important. Mais physiquement, il y a des études qui démontrent qu'ils ont un vrai impact sur un certain nombre de paramètres biologiques de l'être humain.
Oui, absolument. Et alors surtout la pression artérielle qui a été démontrée. Et alors ce qui est drôle, c'est que pour les chiens, on l'expliquait en disant bah oui, on sort avec son chien. Mais finalement, pour le chat, ce qui est l'explication actuelle, c'est que la présence du chat, le fait qu'on lui soit attaché, que cet attachement soit réciproque, donc il y a un véritable amour et un amour inconditionnel avec les chats, parce qu'il n'y a pas de les enjeux qu'il y a avec un conjoint. Fait que ça augmente notre production d'ocytocine. Oui, il y a des expériences très drôles, justement, qui ont montré que quand on fait un test psychologique et qu'on est avec son conjoint, on réussit moins bien que quand on est avec son chat à côté. Donc, c'est pour ça que je faisais la partie.
Pourquoi ? Parce qu'on a peur du jugement ?
Absolument, ouais. Alors que du coup, c'est pour ça qu'avec le chat, c'est vraiment un amour inconditionnel, il n'y met aucune pression. Mm-hmm. Et ça peut être un très bon coach. Donc pour revenir sur les effets physiques, la baisse de la pression artérielle tient au fait qu'il y a une production d'ocytocine qui est augmentée chez les personnes donc qui sont fortement attachées à leur chat et qui ont évidemment des contacts avec. Donc il y a à la fois le côté tactile, le côté que le chat est à la fois un animal particulièrement doux, particulièrement agréable à caresser, mais aussi le fait que cet attachement est là. Yvette en était vraiment
le bon exemple,
avec Barnabé, c'est que cet attachement, le fait d'éprouver de l'amour pour un être avec lequel on vit, augmente cette production d'ocytocine, donc qui est l'hormone du bonheur, et finalement ça permet une forme d'apaisement qui contribue à la baisse de la pression artérielle.
On parle souvent de ronron thérapie, Anne-Claire Gagnon. Ouais. Est-ce que le ronronnement du chat a des effets, et si oui, lesquels sur nous ?
Non, alors ça, c'est une des choses que je souligne dans le livre, c'est que ronron thérapie, c'est un terme qui a été utilisé par les journalistes français, qui n'est pas utilisé à l'international dans les publications scientifiques, et que quand on regarde les publications scientifiques, on a très peu de choses. Alors la nature du ronronnement, on sait ce qu'elle est, on sait la fréquence, etc. Mais l'effet biologique que ça peut avoir sur les êtres humains et en termes de santé, on n'a quasiment rien. En revanche, ce qui serait vraiment intéressant à faire, et pour l'instant, moi je ne trouve pas d'équipe qui soit prête à investir du temps et de l'énergie dedans, c'est par exemple vérifier quelqu'un qui est avec son chat qui ronronne, parce que ce n'est pas seulement l'écouter sur un CD ou à la radio, mais c'est avoir aussi la vibration réelle du chat.
Bien sûr.
Et la chaleur et l'amour du chat, vérifier l'effet que ça fait sur le cerveau humain par rapport à quelqu'un ou par rapport à la même personne qui fait un exercice de méditation. Ça, ce serait intéressant. Mmh. Mais pour l'instant, on n'a pas ce genre d'études. Donc en France, le
mot ronron thérapie... standard.
Oui, allez-y.
On repart au standard de Sud Radio puisque nous avons Dominique de la Garenne-Colombes qui souhaite nous poser une question. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, cher Dominique.
Alors, je suis asthmatique, je suis sous antihistaminique depuis le printemps, bien que nous soyons confinés, parce que j'ouvre quand même mes fenêtres. Et je voudrais... J'ai déjà eu deux chats. Et j'ai toujours apprécié, j'ai jamais eu de chien. Si, chez mes grands-parents, j'aimais bien les gros chiens parce qu'ils étaient en forêt. Et je me sens plus proche d'un chat parce que je suis comme lui, libertaire. Enfin, c'est-à-dire que quand il n'a pas besoin de moi, il se casse. Et c'est comme ça que j'ai perdu Roger. Un jour, il est parti en forêt et dans le Vexin, il n'est jamais revenu. Alors je ne sais pas, je lui souhaite d'avoir trouvé des meilleurs coussins que les miens. Mais normalement, quand je démarrais ma coccinelle, il arrivait. Il savait que c'était l'heure de rentrer, même s'il avait passé les 2 ou 3 semaines.
Il avait ses repères.
Il avait ses repères sonores, oui. Et moi, actuellement, là, je suis dans une maison de retraite et j'ai le droit de personne autonome. Et j'ai le droit d'avoir un animal domestique. Et ma question est, quel est le chat qui serait le moins... je sais qu'ils
allergisant.
Font leur, voilà, exactement. Parce que je sais qu'ils font leurs boulettes, ça c'est normal. Nous, on prend notre douche, eux, ils se lavent.
Alors, voilà. Anne-Claire, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Dominique? Y a-t-il des races de chats moins allergisantes que d'autres?
Alors, des races, pas forcément, mais des lignées de chats moins allergisantes que d'autres, oui. C'est effectivement, il y a eu au moins 2 publications qui le montrent avec des Sibériens. Donc des grands chats à poils longs, ce qui n'était pas contre-intuitif, oui, mais donc sur certaines lignées. Après, ce qui est certain, c'est que les chatons sont terriblement allergisants, alors que les chats adultes, à partir du moment où ils sont stérilisés, le sont beaucoup moins. Donc il faut voir ce qui peut correspondre à Dominique le mieux. Et puis il y a aussi une promesse avec peut-être demain un aliment qui serait développé et qui permettrait que les chats qui mangent ces aliments produisent moins de la protéine allergisante Feldwald.
Oui, c'est en cours de développement, cet aliment spécifique qui n'est pas en soi un traitement pour le chat, mais ce sont tout simplement des croquettes qui ont été développées pour diminuer la production cet allergène qui déclenche l'allergie chez la personne sensible. Et ça devrait être commercialisé très, très prochainement. Donc voilà, c'est peut-être aussi de ce côté-là qu'il faut chercher, Dominique. En tout cas, merci pour votre appel, Dominique. On vous embrasse. Passez un bon week-end.
Je vous remercie parce que je vais profiter des moments de la SPA pour peut-être me déplacer.
Eh bien d'accord. Voilà, parfait. Merci Dominique, on vous embrasse. Anne-Claire Gagnon, Dominique, parlait finalement d'une situation qui est très intéressante, c'est celle des personnes âgées qui sont un peu isolées ou des personnes âgées en maison de retraite. De plus en plus, on voit que des animaux sont acceptés dans ces établissements et qu'ils font un bien fou aux pensionnaires.
Absolument. Alors, soit l'animal même de la personne âgée quand elle rentre en maison de retraite, ce qui fait que... Souvent un grand choc.
Oui.
Soit il y a des mascottes dans les maisons de retraite et il y a aussi maintenant, comme je le raconte dans le livre avec Maxou, il y a des chats qui interviennent en médiation animale et qui font vraiment le bonheur.
Alors peut-être
dans
faut-il
les
expliquer ce que c'est que la médiation animale. Hein.
Alors la médiation animale, c'est d'abord c'est maintenant il y a des formations donc des diplômes universitaires. Le premier qui a été mis en place était à Clermont-Ferrand avec Didier Vernet qui en est responsable. Et donc quand on a fait la formation en médiation animale, on a une formation en psychologie, on a une formation aussi en comportement de l'animal et on intervient avec son animal. En général, des séances plutôt d'une heure, donc dans des instituts médico-pédagogiques, dans des EHPAD, auprès éventuellement de particuliers, donc avec un animal qui est formé, donc un chat. Et c'est vrai que les chats sont beaucoup plus rares que les chiens.
Il n'y a pas que les chats. Là aujourd'hui, on parle des chats, mais en médiation animale, on peut travailler avec un tas d'espèces différentes.
Absolument. Et ce qui est important, c'est à la fois de respecter, bien sûr, les patients, mais aussi l'animal, parce que le chat, particulièrement, au bout d'une heure de travail en médiation animale, il est en général... fatigué, il a besoin de repos. Mais par exemple, Maxou, il va donc dans l'EHPAD. Il y a 7 ou 8 personnes donc de résidents qui sont autour de lui et qui peuvent le caresser, peuvent avoir donc des interactions avec lui. Et c'est extraordinaire, en tout cas les psychologues de l'EHPAD le disent, de voir tout ce que ça sollicite, tout ce que ça permet de catalyser comme chose qui était totalement impossible, totalement... Il y a des résidents qui n'avaient pas entendu parler et s'intéresser et avoir vraiment d'élan de vie et qui, à partir du moment où Maxou vient, ne serait-ce qu'une fois par semaine ou une fois par mois, sont beaucoup plus dynamiques, arrivent à faire des gestes aussi.
Ça les ouvre au monde.
Oui, et parfois arrive aussi à juste les calmer, parce que certains patients sont aussi malheureusement en colère ou victimes de maladies d'Alzheimer ou de troubles dyscognitifs. Et Maxou fait vraiment des miracles. Et même sur certains, entre autres, Thierry Disco, qui donc est la personne qui fait la médiation animale, le dit, il avait un des patients, ça n'avait pas bien fonctionné avec lui. Et puis, il se retrouve à intervenir dans un centre où il avait été transféré, ce monsieur. Et le monsieur, qui se souvenait pas grand-chose, d'un seul coup, dit « Maxou ». Et en fait, il était extrêmement content de revoir le chat, ce qui veut dire qu'il avait bien mémorisé l'interaction et que même s'il oubliait beaucoup de choses, il n'avait pas oublié Maxou.
On va repartir au standard, Anne-Claire, puisque nous avons Martine de Bordeaux qui est en ligne avec nous. Bonjour Martine.
Oui, bonjour. Je vous téléphone. Bon, d'abord parce que je suis une passionnée de chats. Voilà. Oui. J'ai vécu dans mon enfance chez mon grand-père à la campagne avec toujours un chat. Bon, ma maman me manquait beaucoup et j'avais toujours besoin d'un chat. Puis j'ai eu ma vie adulte, je suis devenue infirmière psychiatrique. Et ensuite, à la retraite, j'ai pris une chatte. Et cette chatte, on a été vraiment... Bon, j'avais fait ma vie, j'ai divorcé, je me retrouvais toute seule. On a été vraiment fusionnels. Et cette chatte est décédée brutalement le jour de mon anniversaire. Et j'ai failli en mourir. Ma tension est montée à 20. On m'a hospitalisée. Je suis restée 3 semaines à l'hôpital, c'est pour vous dire. Ah oui. Et quand je suis sortie, j'ai repris une chatte. Mais je retrouvais pas ce que j'avais, c'était trop tôt. Bon, c'était une erreur. Hein. Et j'en ai pris une autre, donc 2 chattes que j'avais adoptées. Et puis finalement, j'ai eu un coup de cœur internet et j'ai trouvé une petite abyssine. Alors le chat abyssin, pour répondre au monsieur qui demande un chat pas
allergisant.
L'abyssin est parfait parce que c'est un chat avec des poils très courts et qui tient beaucoup du chien et qui s'attache beaucoup à son maître. Donc j'ai mes 3 chattes, Zaza, Lilith et Jojoy, et j'habite dans un appartement à Bordeaux. J'ai la chance d'avoir une grande terrasse qui donne sur des toits et des voisins. Vous voyez, elle court dans les jardins. Sauf Zaza, parce qu'elle est trop grosse, elle peut plus descendre des toits. Et Lilith, qui est très sauvage, bon, alors elles ont chacune un caractère. Et effectivement, je parle de la petite abyssine, parce que la petite abyssine, je veux pas la préférer aux autres, mais vraiment, c'est un chat
mais c'est votre coup de cœur quand même.
Et cette chatte, elle est étonnante parce que la nuit, alors il y a un peu de bazar chez moi, j'ai tous mes bonnets, tous mes chapeaux dans un carton, et la nuit, elle passe sa nuit à porter des bonnets sur mon lit, d'un air de dire, lève-toi, ou je ne sais pas. Et moi, mes chattes, c'est ma vie, c'est devenu ma vie. J'ai pourtant eu beaucoup de vie, j'ai beaucoup voyagé. Maintenant, quand je pars en voyage, bon, alors, je m'arrange, il y a une dame qui vient soigner mes chattes.
Martine, je vais être obligée de vous couper, malheureusement, mais restez avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve juste après. Restez avec nous, Martine.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et dans vos animaux ce matin, oh là là, beaucoup de sujets. Nous allons parler des espèces invasives en compagnie du naturaliste Pierre Rigaud. Je vous ferai découvrir un incroyable podcast Wild, le podcast animalier. On découvre les animaux juste par les sons. Mais pour l'heure, nous sommes en train de découvrir pourquoi il faut dire merci à nos chats. Et nous sommes avec le docteur Anne-Claire Gagnon, grande spécialiste des chats, et Martine, l'heureuse propriétaire de combien de chats, Martine? Du coup, ça vous en fait 3.
Ouais, alors oui, et bon, alors c'est un bonheur, hein. Plus je vieillis, bon, j'ai 72 ans, je me sentais pas si âgée que ça avant le Covid, parce que le Covid m'a renvoyé à des choses, et c'est de ça dont je voulais vous parler, parce que j'ai eu peur, là, il y a eu des moments terribles, c'est que j'avais très peur de disparaître, et quid de mes chattes. Et ça, c'est un grand problème pour une personne qui se sent un peu en danger, vous voyez, puis... prendre un chat, c'est quelque chose, c'est une grande responsabilité. Moi, je cherche quelqu'un qui pourrait récupérer. J'ai deux chattes fusionnelles, les deux grosses, je dirais, mais elles sont pas fusionnelles. Il y en a une qui est grosse, pas l'autre. Mais la petite Jojo, et moi, je voudrais trouver quelqu'un parce que je pense que si elle me perd, moi, je me disais, si j'arrive pas au bout de mes chats, genre, je voulais savoir si je pouvais faire une sorte de. Alors, bien sûr, je veux pas que les gens prennent ma chatte pour de l'argent, hein, mais leur faire comme un petit testament pour qu'une personne les reprenne
et
puis continue à les choyer.
Hein. C'est tout à fait possible, Martine, de faire un testament en faveur de son animal de compagnie.
Je ne veux pas déshériter mon fils, bien entendu, hein, mais je pense que bon, j'ai quelques.
Il va être heureux de le savoir.
J'ai quelques petites déséconomies et je voudrais. Mais alors. Ce qui m'ennuie, c'est que je me dis, oui, mais tu vas trouver des gens, mais ils vont reprendre tes chats parce que non. Tu dors.
Mais peut-être que la solution, c'est de confier vos chats à votre fils, Martine.
Parce que mon fils, écoutez, voilà ce qui s'est passé, c'est que mon fils me reproche, me dit que j'ai pas été si tendre avec lui que je le suis avec mes chats.
Martine, je suis désolée, mais...
Martine, là, c'est quelque part tout à fait normal avec l'organisation de votre cerveau et du cerveau de tous les humains. Je pense que les chats nous ouvrent à la tendresse et après, effectivement, on peut effectivement en faire bénéficier tous ses proches, c'est un des privilèges. Pour revenir à votre problématique, je le raconte avec l'histoire de Milord dans le livre. C'est quand même, je suis sûre que vous avez des amis qui peuvent devenir le parrain ou la marraine de vos chats, et peut-être des deux qui sont fusionnels et de la troisième. Et que dans ce cas, c'est finalement extrêmement facile. Et puis, c'est réconfortant pour vous aussi de savoir qu'il y aura toujours quelqu'un qui prendra soin de vos chats pour les chats eux-mêmes, effectivement, et sans peut-être avoir à faire des papiers officiels. Mais Milord, par exemple, ce chat, qui est d'ailleurs le chat d'une consoeur vétérinaire qui a plus de 80 ans et qui avait dit non, on ne fera pas prendre de chat après 70 ans. Et finalement, le chat lui est tombé amoureux d'elle et elle a pas pu résister. Et le chat a deux familles et il va régulièrement dans la deuxième famille qui est beaucoup plus jeune. Et donc, c'est rassurant pour tout le monde, oui, absolument.
Martine, on va vous embrasser très très fort. Merci pour ce très joli témoignage. Merci d'avoir appelé le numéro de Sud Radio. Anne-Claire Gagnon, on aurait pu parler de chat pendant une heure dans cette émission et ça aurait été avec grand plaisir. Donc il va falloir que vous reveniez nous expliquer encore une nouvelle fois pourquoi nos chats nous font autant de bien, puisque c'est le titre de votre ouvrage « Les chats, comment prennent-ils soin de notre santé ?» C'était aux éditions Robert Laffont. Il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de vous raconter encore, mais un très grand merci Anne-Claire et Martine, un gros bisou à vous, bon week-end à toutes les deux. Allez, on passe maintenant à notre question veto.
Sud Radio, vos animaux, question veto.
Et c'est Monica qui a composé le numéro du standard de Sud Radio. Bonjour Monica.
Bonjour Natacha.
En quoi puis-je vous aider Monica? Je suis toute oui.
Oui, merci. Voilà, j'ai mon chien, mon chien Joe, c'est un berger de l'Atlas. C'est un chien que j'ai ramené de Tunisie. C'est un beau chien qui ressemble énormément au berger allemand. Et voilà, le problème que je crains, c'est qu'il va maintenant, nous sommes ensemble depuis 10 ans. Il va sur ses 10 ans et je crains qu'avec les ans, son train arrière se fragilise, comme souvent les bergers ont ce problème et qu'il ait donc des problèmes.
On vous a perdu, Monica. En tout cas, moi, je ne vous entends plus. Allô? Très bien.
Oui.
Oui, Monica. Allô? Ah, voilà, oui. Ça y est.
Oui, je disais que j'ai peur qu'avec le train arrière se fragilise et qu'il ait le problème d'articulation parce que je me suis rendu compte de ça l'autre jour. J'ai voulu le faire descendre parce que normalement, avec le confinement, je le fais sortir par un autre endroit, disons, pour pas réveiller les gens autour de moi qui fait beaucoup plus tard que moi. Et il a reculé devant cet escalier qui est un peu raide.
Un peu difficile.
Voilà.
Alors, quelques petits conseils très pratiques qui valent en fait pour tous nos chiens qui, en vieillissant, ont des difficultés à se mouvoir, qui ont les premiers signes d'arthrose. Alors, il n'y a pas de remède miracle, d'abord. Ça, c'est la première chose, il faut le savoir. Mais on peut quand même limiter un peu cette évolution négative de l'arthrose. D'abord, en maintenant un exercice régulier, qui n'est pas excessif, hein, mais régulier, c'est important, d'entretenir ainsi les articulations et la musculature. Ensuite, il faut éviter les problèmes de surpoids qui viennent aggraver ces douleurs arthrosiques et les problèmes de locomotion. Il y a des choses aussi qui fonctionnent bien, ce sont les massages de type shiatsu. Alors, soit vous essayez d'apprendre à faire vous-même, mais c'est pas évident, soit vous faites appel à des gens dont c'est le métier, qui sont formés pour ça, et vous faites une séance de massage une fois par mois. Écoutez, moi je vais vous donner mon exemple personnel. J'ai perdu mon Golden Retriever qui avait 15 ans et je l'ai perdu il y a un an et demi. Et
Je me rappelle de votre animal. Oui, j'avais vu à la télévision.
Oui, c'est ça. Il était toujours avec moi sur les émissions de Télématin. Et Max, pendant plusieurs années, à la fin de sa vie, il a eu des séances de shiatsu à peu près une fois par mois. Et ça lui faisait un bien fou, parce que ça lui permettait de garder une vraie mobilité. Après, on peut aussi donner des compléments alimentaires qui sont des chondroprotecteurs, c'est-à-dire des médicaments qui vont venir renforcer les articulations. Donc, il n'y a pas une seule solution, il y a une multitude de petites choses qui font que ça maintient votre animal en bonne forme le plus longtemps possible, même s'il n'y a pas de solution miracle. Voilà, j'espère, Monica, avoir répondu à vos questions.
Excusez-moi, oui, je lui donne un complément alimentaire à base d'herbes, de l'Arpagophytum, je pense que ça lui fait un peu de bien peut-être. Mm-hmm. Je pensais, j'ai vu que sur Albi, parce que moi j'habite donc à la campagne, sur Albi il y avait une ostéopathe pour animaux.
Donc, c'est très bien l'ostéopathie aussi. Ostéopathie, acupuncture, voilà, toutes ces médecines-là sont des médecines qui peuvent vraiment aider nos animaux à mieux vivre leur vieillissement. Donc, n'hésitez pas, Monica. Monica, on vous embrasse. Merci d'avoir appelé le numéro de Sud Radio. Excellent week-end. Allez, on va maintenant s'intéresser à la faune sauvage.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et aujourd'hui, nous allons parler des espèces invasives. Écureuils à ventre rouge, écrevisses de Louisiane, ratons laveurs ou encore perruches à collier. Voilà des espèces nouvellement, entre guillemets, arrivées dans notre pays. Alors, menacent-elles réellement la biodiversité locale? Qui sont-elles? D'où viennent-elles? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Rigaud, qui est naturaliste et que vous connaissez par cœur sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Pierre.
Bonjour Natacha.
Alors, la liste est longue de ces espèces que l'on qualifie d'invasives. Peut-être déjà pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une espèce invasive?
La liste est très très longue et puis il y a plein de cas qui sont en fait très différents, mais la définition est en théorie assez simple. C'est une espèce qui a été déplacée par l'être humain, qui n'est pas originaire de l'écosystème où elle est aujourd'hui présente et qui se développe dans sa nouvelle région du monde, dans son nouvel écosystème, si je puis dire, d'une façon assez inhabituelle et beaucoup plus importante que de là où elle vient.
Et souvent, ce développement se fait au détriment de l'espèce locale avec qui elle entre en compétition.
Voilà, c'est un des problèmes, entre guillemets. C'est pour ça qu'il y a toute cette question que se posent les biologistes en général sur la façon de gérer cette nouvelle présence d'espèces, si on peut dire, parce que parfois, il y a des conséquences sur les écosystèmes d'arrivée, donc soit des espèces dites envahissantes, exotiques, envahissantes ou invasives, c'est à peu près la même chose, soit ces espèces-là menacent des espèces indigènes qui étaient présentes de façon naturelle, soit alors ça peut causer des dégâts aux activités humaines. C'est ça qui est un petit peu flou finalement dans la définition. En théorie, c'est assez simple, ça cause des problèmes, mais en fait, souvent, il y a un mélange entre des impacts écologiques purs et durs, bien réels, et la disparition d'espèces locales, et puis des dommages ou des dégâts aux activités humaines, ce qui là est quand même plus difficile à discuter sur un plan strictement scientifique.
On a Philippe qui a composé le numéro du standard de Sud Radio. Bonjour Philippe.
Bonjour Natacha, bonjour Pierre.
Bonjour.
Philippe, vous êtes témoin, vous, chez vous, je crois, de certaines invasions. Racontez-nous ça.
Natacha, en fait, moi, je rebondis sur un fait, c'est que nos amis britanniques ont déclaré les fameuses perruches que vous évoquiez, les perruches géantes, les perruches à collier. Voilà, ils les ont déclarées nuisibles dans les parcs de Londres. Et ce sont de bons ornithologues et de très bons protecteurs de la nature comme nous. Donc je ne comprends pas que ces perruches ne soient pas déjà décrétées, dirons-nous, comme des nuisibles, puisque moi je les ai vues de mes yeux s'en prendre à des nichées d'écureuils roux qu'elles faisaient tomber de la cime des arbres où ils étaient dans des petits trous abrités par leurs parents. Et elles s'en prennent même aux chouettes hulottes, puisqu'on avait des chouettes hulottes que j'entendais la nuit autour de ma maison, alors que je suis à peine à 20 bornes de Paris, et il n'y a plus une chouette hulotte depuis que ces animaux ont envahi les trous qu'elles utilisent pour mettre leur propre progéniture. Donc c'est absolument dommage de ne pas préserver notre faune endémique et de laisser des oiseaux qui sont par ailleurs superbes, soit, mais dans leur pays, quoi. Enfin, et ils ont été importés, je crois, hein, pour des...
Alors, on va demander à Pierre Rigaud, justement, d'où viennent ces perruches à collier. Je sais qu'en Île-de-France, l'ONCFS avait recensé, c'était de mémoire en 2018, plus de 5000 perruches à collier. On les reconnaît facilement, elles ont une couleur très vive, très verte. Elles viennent d'où, Pierre, ces perruches ?
D'Asie, en fait, ce qui est très très compliqué avec ce genre de questionnement, c'est que déjà les biologistes entre eux ne sont pas complètement d'accord sur la réponse à apporter. C'est pour ça que je vais être extrêmement prudent et je ne prétends pas moi-même détenir la vérité absolue en la matière. Comme c'est souvent le cas, ces oiseaux au départ, et certes magnifiques, comme disait Philippe, ont été importés parce que c'était des oiseaux d'ornement, puis ils se sont échappés et dans plusieurs régions pays d'Europe. Maintenant, il y a des populations qui commencent à être en effet assez abondantes. Mais c'est vraiment un cas absolument passionnant et typique, la perruche à collier, parce que se mélangent deux choses qui sont d'une part la réalité écologique et d'autre part la perception qu'on en a. Et les perruches à collier ont le désavantage pour elles d'être des oiseaux qui sont très visibles, très sonores. On les entend beaucoup dans les parcs, dans le cœur des villes. Elles se font très facilement remarquer. Et comme on les voit beaucoup, eh ben, on a tendance, nous tous, de façon assez spontanée, à un peu exagérer parfois les méfaits, disons, qu'elles peuvent commettre, et surtout à considérer qu'elles sont extrêmement nombreuses, alors que finalement, certes, des populations commencent à être abondantes, mais si par exemple je vous parle des accenteurs mouchets dans le parc des villes, et bien personne ne saura dire combien il y en a, alors qu'ils ne sont pas moins nombreux que les perruches à collier, simplement, ce sont des petits oiseaux bruns qui passent inaperçus. Donc les perruches à collier, on les remarque, et c'est vrai qu'elles occupent des trous dans les arbres pour faire leur nid et que ça peut parfois prendre la place d'espèces locales, alors plutôt par exemple des pigeons colombins ou des citelles. Mais là encore, il n'y a pas d'études qui soient vraiment très 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 claires pour dire qu'il y aurait un impact notable. Et c'est pour ça que la gestion de cette question, elle est assez différente en effet, selon les endroits, selon les pays. Il y a des scientifiques qui disent il faut absolument éradiquer localement les populations de perruches à collier. D'autres qui disent après tout, elles sont là, donc certes, elles vont avoir des conséquences certaines, mais pas forcément terribles. Donc la question reste ouverte et moi-même je prétends pas avoir de réponse définitive, si ce n'est que j'aurais plutôt tendance à dire, comme disent d'ailleurs de plus en plus de naturalistes et de biologistes maintenant, finalement elles sont là, la difficulté ou disons la stratégie qui consisterait à vouloir absolument les éliminer aurait, en dehors évidemment de la cruauté ou de la façon de le faire, mais aurait potentiellement des effets négatifs qui seraient plus forts que les effets positifs obtenus, parce qu'à chaque fois, ça on le voit dans l'histoire vraiment, à chaque fois qu'on essaye d'éradiquer une population d'animaux localement, eh bien, il y a des dommages collatéraux et ça touche aussi des espèces locales, donc c'est très très compliqué à régler.
Merci Philippe pour votre témoignage. Pierre Rigaud, est-ce qu'il y a un exemple emblématique d'une espèce que l'on considère vraiment comme invasive et qui pose de réels problèmes sur la faune locale ?
Alors, les cas qui ont été réellement documentés précisément concernent essentiellement des animaux importés sur des îles et essentiellement des rats. qui voyage dans les bagages des humains de façon incognito et qui depuis des siècles par les bateaux ont été importés sur des îles où des oiseaux n'avaient pas de prédateurs terrestres et donc ces oiseaux faisaient leur nid au sol. Et dès lors qu'il y a des rats qui se développent, eh bien ça peut faire et ça a fait en effet disparaître soit des populations, soit carrément des espèces très indigènes, enfin très endémiques, présentes seulement en certains endroits du monde. Mais il faut bien rappeler que ce ne sont pas les espèces en tant que telles, les animaux en tant que telles qui sont invasifs par nature ou qui sont nuisibles par nature. C'est à chaque fois parce que l'être humain les a pris d'un écosystème et les a mis ailleurs. Et il faut rappeler aussi que, la notion d'invasif, maintenant, quand même, on en revient un petit peu parce que ce qui est différent avec un processus, disons, sans intervention humaine, c'est l'échelle de temps, puisqu'en fait, même dans l'histoire, avant que les humains ne déplacent des espèces, il y avait déjà des déplacements d'espèces. Il n'y a pas de nature figée, originelle, dans laquelle l'homme serait intervenu. Tout a toujours bougé, et les espèces ont bougé, les populations ont bougé. Mais c'est vrai que lorsqu'on on fait quelque chose très rapidement et que les espèces qu'on importe n'ont pas coévolué avec les espèces locales, eh bien, ça crée un bouleversement. Mais finalement, le remède qu'on applique avec la destruction, c'est vrai qu'il est souvent pire que la maladie. Enfin, il est souvent pire que la cause déjà causée par les humains.
Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces explications toujours fort riches. Et je conseille à tous nos auditeurs de vous suivre sur vos réseaux sociaux parce qu'on découvre plein de choses sur la faune sauvage.
Merci.
Allez, restez avec nous dans quelques minutes. Une magnifique découverte, un podcast animalier.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
C'est votre histoire. Voilà une rubrique bien nommée. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Ambre Godet. Ambre, bonjour. Merci d'être avec nous.
Bonjour Natacha, merci pour l'invitation.
Ambre, vous êtes journaliste radio depuis 18 ans, je crois. Vous êtes surtout une passionnée des animaux et vous aviez un rêve. Expliquez-nous ce rêve, parce que aujourd'hui, grâce à votre détermination, ce rêve est devenu une réalité.
Absolument. En fait, mon rêve, c'était d'être reporter animalier. Alors, j'ai grandi au milieu des animaux, au bord de la Méditerranée. Moi, j'allais me baigner tous les jours en allant voir les poissons. J'en avais même apprivoisé, ce qui paraît incroyable, mais dans mon souvenir d'enfant, c'était vraiment ça. Et j'ai grandi en voulant être journaliste. Et en fait, reporter animalier, je l'ai un peu laissé de côté parce que c'était pas très à la mode. Ça me paraissait impossible, en fait, comme rêve d'être reporter animalier. C'était vraiment réservé à Nicolas Hulot, quoi, à l'époque, de faire des grand reportage au bout du monde avec des animaux ou au commandant Cousteau qu'on pouvait voir sur la 3 le dimanche, quoi.
C'est vrai.
Mais ça me paraissait impossible. Et puis en fait, il y a quelques années, j'ai eu une grande tristesse dans ma vie, un grand chagrin, et je me suis dit maintenant ça suffit, il est temps de réaliser tes rêves d'enfant et de te lancer dans le reportage animalier. Alors j'ai mis toute mon énergie, toutes mes économies, je me suis pris une année sabbatique de mon travail, je me suis fait faire une formation de photographe et je suis devenue reporter animalier.
Alors, ce qui est formidable dans ce que vous venez de créer, c'est que vous avez fait quelque chose qui n'existait pas et finalement, c'est bien d'inventer des voies nouvelles, d'aller là où personne n'est jamais allé. Vous avez inventé le podcast animalier. Alors, j'aimerais bien, Ambre, que vous expliquiez peut-être, parce que je ne suis pas certaine que tous nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit un podcast animalier.
Absolument. Alors, un podcast, déjà, c'est quelque chose qu'on entend à la demande. C'est une émission qu'on peut écouter à la demande. Donc, c'est uniquement de l'audio. On est bien d'accord.
Voilà, c'est que de l'audio.
C'est que de l'audio. Normalement, quand on dit reportage animalier, on pense tout de suite à du visuel. On imagine la télé, de voir un documentaire avec des images. En fait, on sous-estime notre pouvoir auditif. C'est comme si on avait un super pouvoir qu'on n'exploitait pas dans la nature. Les animaux, ils se servent beaucoup plus de l'ouïe que de leurs yeux, en fait. Hein. Et je vous assure que si vous écoutez un podcast avec des bruits de la jungle en fermant les yeux, vous allez croire que vous êtes vraiment dans la jungle, plus que si vous regardez une émission télé, en fait.
Vous savez quoi, Ambre, on va vous écouter justement. Allez, premier extrait.
Bienvenue dans Wild, le podcast animalier. Je m'appelle Ambre, je suis reporter animalier et chaque semaine, je vous emmène sur terre ou sur mer à la découverte de rencontres exceptionnelles. Partez avec nous à l'aventure sans sortir de chez vous. Fermez les yeux, c'est parti.
Là, vous expliquez bien, finalement, on ferme les yeux et on se laisse embarquer dans l'histoire que vous nous racontez. Comment vous travaillez, Ambre ? Parce que pour produire ces podcasts, on vous imagine là, au milieu de la jungle ou ailleurs, avec votre micro, c'est comme ça que ça se passe ?
C'est exactement comme ça que ça se passe. En fait, je suis au milieu de la brousse dans le Cameroun. Je suis au milieu de l'Arctique sur une mer déchaînée avec mes micros accrochés à moi que j'essaye de pas perdre comme je peux. Alors des fois, il y a du vent, des fois, il y a la tempête, des fois, il y a des animaux qu'on n'attendait pas qui surgissent. Et en fait, j'enregistre toute cette expédition que je vais faire. Je suis toujours accompagnée par un guide naturaliste, un spécialiste qui va me mener sur les traces d'un animal sauvage qu'on cherche, parce qu'évidemment, moi toute seule, je serais bien incapable de trouver les singes hurleurs dans la jungle du Belize, par exemple. Donc du coup, je trouve toujours la bonne personne, le bon guide qui va pouvoir m'accompagner et on va passer une journée, deux journées cachées dans les fourrés à essayer de trouver l'animal qu'on est venu voir en respectant toujours, bien sûr, le milieu naturel. Donc on se met loin, on observe en se cachant le plus possible pour jamais les déranger. Et en fait, il y a toujours plein de histoires qui nous arrivent, on tombe toujours sur des scènes incroyables, des bébés animaux qui débarquent qu'on n'avait pas prévu, et puis y a toujours cet enthousiasme. En fait, quand on croise enfin l'animal qu'on est venu chercher, après l'avoir cherché pendant des heures, c'est toujours une rencontre merveilleuse.
Ce qui est incroyable, et vous l'expliquez très bien, mais je le confirme à tous nos auditeurs parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter, c'est que finalement, vraiment le pouvoir de nos oreilles est immense parce qu'on se projette, on s'imagine et vous nous embarquez littéralement avec vous. On va écouter un autre extrait, c'est le premier podcast que vous avez mis en ligne, c'est sorti je crois en décembre dernier, et là vous nous embarquez au pays des rennes.
Aujourd'hui dans Wild, je vous emmène rendre visite à des rennes. Et oui, parce que le pays des rennes n'est pas loin de la Norvège. Alors évidemment, il faut marcher dans la neige pour les atteindre. Et alors je suis au milieu de tout un troupeau de rennes, dignes des rennes du Père Noël, vous les entendez derrière moi.
C'est beau, on a envie de continuer avec vous ce voyage, Ambre, on se laisse totalement porter. J'imagine que quand vous rentrez d'une expédition, vous avez des heures et des heures d'enregistrement. Comment ça se passe ?
Oui, c'est ça. Alors en fait, très souvent, quand je rentre, je monte tout de suite parce que je sais ce qu'il faut garder dans ce que j'ai vécu pour essayer de faire un résumé le plus complet et de ce que j'ai vu. Donc en effet, j'ai souvent 5 heures de rush, mais je vais direct dans ma tête. Je sais très bien l'histoire que je veux raconter.
Est-ce que vous écrivez avant votre histoire ? Est-ce que vous vous faites un scénario ? Ou est-ce que vous prenez tout simplement tout ce qui tombe ?
Alors, jamais. J'écris jamais à l'avance. Alors, c'est peut-être un défaut, mais c'est parce que je pense que je suis quelqu'un de très spontané et j'ai pas du tout envie de savoir à l'avance ce qui va m'arriver. Donc, du coup, même le guide en général avec lequel je pars, je sais même pas où est-ce qu'il m'emmène. En fait, très souvent, j'ai trouvé des coordonnées par des contacts ou sur Internet ou il me donne rendez-vous alors sur un parking la nuit. Je sais pas trop où est-ce que je suis.
Ah ouais, vous êtes une vraie aventurière.
Oui, très souvent, et j'adore ça, en fait. Cette espèce d'adrénaline où je ne sais pas où je vais, et je ne sais pas ce que je vais rencontrer, mais je fais confiance. Et je sais que les personnes avec qui je pars sont toujours des passionnés d'animaux, donc forcément, l'histoire dans laquelle ils vont m'embarquer, ça va être une super histoire. En fait, je fais vraiment confiance à eux, leur expérience de vie, parce que c'est toujours des gens qui sont au contact de cet animal depuis des années, voire des dizaines d'années, donc j'ai entièrement confiance en l'histoire qu'ils vont me raconter et en l'exposition qu'on va faire ensemble.
Quel est le voyage qui vous a le plus marqué, la rencontre animale qui vous a la plus émue peut-être ?
Alors, il y en a une qui est la première véritablement que j'ai faite. Alors, elle est un peu particulière, celle-là. Je suis partie au Cameroun m'occuper de bébés chimpanzés orphelins. C'est avec une association formidable qui s'appelle Papaye International. Je suis partie en tant que volontaire m'occuper de ces chimpanzés qui ont eu leurs parents braconnés et qui, du coup, dans la nature, tout seuls, ne peuvent pas survivre. Et en fait, c'est la première fois que j'ai sorti, je suis arrivée avec tous mes micros et j'ai tout enregistré des rencontres avec les chimpanzés. Et vraiment, en fait, c'est comme nos bébés humains. Et du coup, au niveau, la maman que je suis a eu beaucoup de mal à quitter ces bébés chimpanzés. C'était une aventure merveilleuse.
On va en écouter un extrait, justement.
Salut, moi c'est Elliot, j'ai 9 ans.
Hey, moi c'est Scarlett, j'ai 9 ans.
Salut, moi c'est Zoé, j'ai 11 ans.
Les enfants, je vous propose de partir voir des vrais chimpanzés. Vous êtes prêts?
Oui!
Écoute bien, il va y avoir un bébé chimpanzé qui va crier très fort. Note sur ton cahier comment elle s'appelle et pourquoi elle crie.
C'est venu.
Ça, c'est Cerise. Elle fait une crise parce qu'elle veut que je la porte.
Elle s'est fait porter.
C'est bon, Cerise, t'es contente maintenant que je te porte.
Les bébés, ils sont vraiment comme nos bébés humains. Hein. C'est pareil.
Ouais, c'est pareil, ils exigent.
Voilà l'incroyable rencontre avec ce bébé chimpanzé, Cerise. Là, on entend que ce podcast, Ambre, il est vraiment destiné aux enfants. C'est ce que vous faites depuis cette période de confinement. C'est une nouveauté. Et comme il va bientôt falloir qu'on se quitte, j'aimerais qu'on écoute un dernier extrait. C'est en exclusivité. Après, vous allez nous raconter de quoi il s'agit.
Si jamais vous pensez que nous nous trouvons dans une situation vraiment périlleuse et que votre vie est en danger, vous pouvez appuyer sur ce bouton rouge d'appel d'urgence. Et les gardes-côtes seront alors alertés et ils viendront vous chercher.
Après 20 minutes de navigation, première découverte.
Souffle à midi. Oh, wow. On a vu son dos plonger. Oh là là. Il y en a 5, 6, 7. Incroyable.
Alors ce qui est étonnant toujours, c'est le silence à bord, moi je trouve, quand on croise des mammifères, quand on croise des orques. Vous êtes où, Ambre, dans cette aventure?
Alors, je suis en Arctique, je suis partie voir des orques. C'est le prochain podcast de Wild qui va sortir très prochainement. Là, c'est une aventure incroyable que j'ai vécue dans un tout petit bateau et on va pouvoir discuter avec les orques, c'est-à-dire qu'on va entendre vraiment le langage des orques qui est le mammifère marin le plus intelligent sur Terre. Voilà, c'est vraiment une aventure que j'ai hâte de vous faire découvrir. Et puis juste un mot sur
ce sera le 1er mai prochain. Et alors, pour découvrir Wild, le podcast animalier, vous pouvez aller sur toutes les plateformes de podcast. Puis aussi tout simplement taper sur les moteurs de recherche type Google Wild, le podcast animalier. Allez, je vous cite aussi un autre Wild que j'aime beaucoup, c'est mon compte Instagram Pets and Wild, deux médias qui vraiment vous permettent de découvrir les animaux. Ambre, je vous embrasse, merci infiniment pour cette très très jolie découverte et pour ce travail fascinant. C'est la fin de vos animaux, merci à vous de nous avoir suivis, excellent week-end.